indomptablement adû, comme mon espoir silence, éclater là-haut. Quiconque entend un poème, même illettré, sent bien qu'il y a là une tentative. Ce n'est pas si facile, cela peut échouer, de rendre justice à la réalité, non pas telle qu'elle apparaît, mais telle qu'il la vit en lui restituant directement, en court-circuitant la fable, sa profondeur de champ. Plus il y a de poésie, plus il y a de réalité.
Dans le cadre des extras de la troisième édition de Concertina, les rencontres estivales autour des enfermements qui se dérouleront à Dieulefit au mois de juillet, aujourd'hui, samedi 8 avril 2023, à l'usine de Poët-Laval, en extra, une rencontre. Le maire et le poète. Le maire de Dieulefit, Christian Bussat, et le poète Jean-Pierre Siméon. Bonjour Jean-Pierre Siméon.
Bonjour.
Jean-Pierre Siméon, vous êtes né à Paris en 1950. Vous êtes auteur d'une vingtaine de recueils de poésie, romancier, critique et dramaturge, auteur de livres pour la jeunesse, de nombreuses pièces de théâtre. Actuellement, vous êtes directeur de la collection Poésie Gallimard, des prix, des grands prix, l'International Prix de Poésie Contemporaine en Chine en 2021. Votre vie est un bain de poésie. Quand avez-vous commencé à laisser couler votre flot poétique ? Y a-t-il eu un déclencheur dans votre histoire qui a fait naître en vous la nécessité d'écrire ?
Oui, alors c'est une question qui m'est posée très souvent, mais à juste titre, comme on pose d'ailleurs la question souvent aux poètes. Et je viens d'écrire un livre, je vous assure, qui répond à cette question, qui tente d'y répondre. C'est un livre qui s'intitule exactement « La flaque qui brille au retrait de la mer ». Ça, c'est le titre, pour moi, pour parler de la poésie. Mais ça, c'est un sous-titre « Matière à réflexion ». Et c'est un petit essai où je réponds à la question « Mais comment donc êtes-vous devenu poète ?» Puisque c'est une question, comme vous le faites, qu'on me pose souvent et qui est très légitime. On se demande pourquoi on devient poète comme ça. Alors, je dis dans le livre que c'est une question à laquelle on n'a en fait pas vraiment de réponse. On ne le sait pas soi-même exactement. Après avoir dit ça, j'essaie de comprendre. Alors moi, je dis dans ce livre, et qui sera ma manière de répondre, qu'il y a chez nous tous une pente poétique, une part de nous-mêmes qui est tentée par l'état de poésie. C'est une manière d'être et d'habiter et de voir le monde et de comprendre la réalité. Et que nous portons tous ça en nous. Mais que certains d'entre nous le font vivre plus, que même lui donnent toute sa valeur, toute son importance, alors que d'autres ne le font pas. Voilà. Et alors la question véritable, c'est pourquoi certains donnent tellement d'importance à cette part de leur compréhension du monde, à cette sensibilité-là particulière, et pourquoi les autres ? Ça, c'est là que c'est un peu plus mystérieux. Mais là, je ne vais pas raconter tout ce que je dis dans le livre, mais je parle de ça. Alors, quand même, il y a une réponse encore plus précise. Pour ce qui me concerne, autant que je me souvienne, j'ai éprouvé une émotion très, très forte. Quand j'étais très, très jeune, à l'école primaire, je pense que c'était en CE, je crois, quelque chose comme ça. Et je pense que c'est le genre d'expérience que connaissent tous les poètes ou même artistes. C'est qu'il y a un moment dans la petite enfance ou dans l'enfance où on est comme ça, comment on pourrait dire, on éprouve une émotion qui est comme une émeute, une sorte de révélation étonnante, mystérieuse, qu'en rencontrant un poème, soit qui, là il était dit par l'Institut, tout simplement, pas moi qui l'apprenais par cœur, j'aimais pas la récitation, mais il était dit par l'Institut, ou par exemple, il arrive qu'on rencontre un tableau, une sculpture, quelque chose, ou une musique, quelque chose qui nous saisit plus fort que d'habitude. Et tout d'un coup, on a, même enfant, l'intuition qu'il y a une autre part de la réalité, qu'il y a une autre façon de comprendre et de saisir les choses. Et c'est cette émotion-là que je crois qui est fondatrice. Quand on l'a connue, on se dit, mais là, ça ouvre sur un monde immense et profond à l'intérieur même du monde où on est. Et que c'est une aventure que d'explorer ce monde-là. Voilà. Et c'est quand on a cette conviction profonde que peut-être, on deviendra danseur, pourquoi pas chanteur, poète ou peintre.
Est-ce que vous pensez qu'on peut avoir une conviction profonde et à la fois ne pas pouvoir faire le pas de l'écriture ? Ça donc rejoint la seconde question que je voulais vous poser, c'est qu'à vos débuts, après cette émotion forte dont vous parlez, est-ce que Est-ce que vous avez commencé à écrire concrètement? Est-ce que au moment où vous êtes vous assumez, mais est-ce que vous passez dans le pas concrètement de l'écriture poétique? Est-ce que votre entourage est avec vous? Est-ce que vous êtes est-ce que votre poésie est accueillie? Est-ce que ce désir d'expression là est accueilli dans votre famille, votre entourage?
En fait, il y a deux questions dans votre question. La première, par exemple, est-ce qu'on est obligé d'écrire des poèmes parce qu'on a éprouvé cette expérience dont je parle? Pas forcément. On peut être poète sans écrire de poèmes. Voilà ce que je crois. Je le dis dans voyez-vous, dans ce livre, il y a une partie qui est faite de petits aphorismes, qui ont un peu des conseils de jeunes poètes, par exemple. Et le premier de ces aphorismes, il dit ceci: mieux vaut un poète sans poème qu'un poème sans poète, qui est une manière un peu boutade de répondre à cette question. Maintenant, la deuxième partie de la question. Au début, moi, j'ai été surtout subjugué par ça, ce sentiment que j'ai eu de quelque chose qui m'attirait, au fond, profondément, et qui répondait à une inspiration en moi, sans doute, voilà. Et ça m'a plutôt conduit à devenir lecteur de poésie d'abord, à lire plein de choses. Alors moi, j'étais une famille très modeste, on était 6 enfants. Mon père n'avait pas fait d'études, mais il adorait lire, et il avait plein de livres. On lisait beaucoup. Et moi, je lisais tout, hein. Je n'étais pas un intello. J'étais comme les gosses de mon âge. Je lisais des BD, je lisais des magazines BD, comme on faisait à l'époque. C'est important de le dire, je crois que ce qui fait le poète, comme ce qui fait l'artiste, au fond, ce n'est pas seulement ce désir, c'est de le confirmer et de le nourrir. Ben, de lecture, ou si c'est un autre art, de rencontre avec des artistes, d'accord ? Si on aime la musique, on va écouter beaucoup de musique. Et si on aime la poésie, alors moi j'ai lu très vite beaucoup de poèmes, et plus je lisais de la poésie, plus j'étais confirmé dans mon intuition, en disant, mais chaque poète que je lisais des choses très différentes d'ailleurs. Chaque poète que je lisais m'ouvrait un univers. Et surtout, ouvrez la langue. Je me dis, mais c'est incroyable, c'est magique, c'est extraordinaire ce qu'on peut faire avec la langue, ce qu'on peut dire, ce qu'on peut faire apparaître à la conscience, rien qu'avec des mots. Ça, oui, vraiment, c'est par la lecture de poèmes que je me suis nourri de ça. Après, oui, dans ma famille, il y avait beaucoup, ça tient à mes parents, hein. Ma mère était une instite, c'est peut-être pas pour ça spécialement, parce que mon père, qui n'avait pas fait d'études, aimait beaucoup tout ce qui était l'art, etc. Et donc, on allait au théâtre, il y avait beaucoup de musique dans la maison, de chansons, c'est une maison très ouverte. Je crois que ce climat-là, il a fait beaucoup. Et effectivement, quand j'écris des poèmes, je les ai montrés à mon père. Et ça veut dire l'ambiance aussi, parce qu'on ne le ferait peut-être pas spontanément dans d'autres familles, je pense. Moi, j'ai été en confiance avec mon frère, on écrivait des poèmes tous les deux. Voilà. Et quand j'ai montré les poèmes, j'avais fait vraiment des poèmes que j'avais un peu tapés à la machine, parce qu'à l'époque, on avait une vieille machine à écrire, on n'avait pas d'ordinateur. Et j'ai montré ça à mon père, et il m'a dit ceci, ce qui est incroyable, il m'a dit, c'est transcendant. Je savais pas ce que ça voulait dire, le mot. Mais alors, après, j'ai vu, ça veut dire qu'il était complètement enthousiaste. Et son enthousiasme, vous comprenez bien, l'enthousiasme d'un père, ça m'a encouragé énormément. Voilà.
Est-ce que ça vous dit de nous ouvrir un peu les auteurs qui vous ont peut-être inspiré?
Il y en a beaucoup, puisque je disais en vrac tout ce qui arrivait. Et d'ailleurs, c'est la différence avec le milieu scolaire. Quand je faisais la distinction tout à l'heure entre la poésie à l'école, au collège, au lycée, et ma propre formation dans la poésie, c'est très différent. Parce que dans le collège et au lycée, on a un certain nombre de textes qui reviennent toujours, que tout le monde connaît, qui sont une sorte de répertoire obligé. Je ne disais pas que Baudelaire, Lamartine, ou je pouvais lire des poètes dadaïstes ou surréalistes, vous voyez, je pouvais lire Aragon ou Éluard, qui étaient encore vivants, en tout cas Aragon, quand j'étais jeune, et c'était complètement différent, et je pouvais lire des choses très très différentes. Par exemple, Boukbou, bien sûr, des poètes surréalistes dont j'ai parlé, ou Tristan Tzara, des choses comme ça. C'est-à-dire, je pouvais aimer aussi bien de la poésie. Tenez, on m'avait offert même, à l'époque, on donnait des prix, vous savez, ça ne se fait plus. On donnait les prix, et d'ailleurs c'était un peu injuste, parce qu'on donnait des prix, des livres, donc, aux bons élèves. Ce qui est un peu nul, c'est aux autres qu'on aurait dû offrir des livres. Bon, enfin bref, donc on m'a offert, j'avais un prix de français quand j'étais en 3e, je crois, ou 4e, et on m'a offert des poèmes de Dubélé. Et Dubélé, on trouve ça, on trouve un ou deux poèmes dans les manuels scolaires, mais là j'avais un livre entier. Et bien moi j'ai lu ça passionnément, le soir je lisais ça. comme je pouvais lire, effectivement, Prévert. Vous voyez, et donc pour moi, il y avait, ça serait très important dans la formation du goût et de la pensée de la poésie. Pour moi, il n'y avait pas un partage entre la poésie d'autrefois, les grands poètes classiques et les poètes d'aujourd'hui. Ils écrivaient différemment, mais ça ne me gênait pas, ça. On parle tous différemment, on marche tous différemment, on aime tous différemment. La différence, c'est la richesse. Et donc, j'ai trouvé ça dans la poésie, des chemins tellement opposés. Je pouvais lire en même temps Eugène Guilvic, ce poète du XXe siècle qui écrivait des poèmes très courts et en vers très courts. Et puis, à côté de ça, tenez Saint John Perse, qui est un grand poète français, malgré son nom, qui a eu le prix Nobel en 1960, et qui est d'une grande prose élancée, comme ça, pleine d'images et un peu mystérieuse. Mais moi, ça ne me gênait pas de passer de l'un à l'autre. Ou de la poésie de Raymond Queneau, qui est comme Prévert, qui sollicite l'humour, et l'argot même, à des grandes poésies lyriques.
Alors justement, vous parlez de cette façon que chaque poète ou poétesse va avoir de s'exprimer, d'utiliser des images. J'avais envie, alors je sais pas, j'avais envie de citer une de vos poésies, je me permets, pour vous questionner justement dans cette histoire d'image poétique. Je vous cite votre poésie qui est titrée « Quand je dis ». Quand je dis les pommes blanches du plaisir, la table ronde du sommeil et le regard brisé des fontaines. Et vous finissez comme ça. Quand je nomme verger la patience, raisin le goût des lèvres, et jardin ton visage, je me comprends. Alors, vous souvenez-vous quand vous avez écrit cette poésie? Et en tant que poète, avez-vous toujours l'attente en fait d'être compris par vos lecteurs?
Oui, bien sûr. Oui, ce poème, c'est extrait d'un livre que j'avais écrit pour la jeunesse. C'est des poèmes qui sont maintenant d'ailleurs beaucoup dans les écoles. Et c'était une manière de parler, de faire comprendre, sentir la force de l'image. Et l'image est la métaphore, comme on dit savamment, mais l'image est au cœur de la poésie. Et je pense que c'est une façon merveilleuse, magique, justement, d'élargir le réel, d'augmenter le réel. Vous savez, ce n'est pas l'ordinateur qui augmente le réel, c'est la poésie. Le vrai réel augmenté, il est dans la poésie. Et une seule image, pour dire, par exemple, quand Paul Éluard dit « d'une seule caresse, je te fais briller de tout ton éclat », il n'y a pas meilleure façon de dire la tendresse, non, quand même, je crois. Donc, et c'est une image. Peu importe, ça se comprend immédiatement. À propos de la compréhension, c'est de la compréhension intuitive. Alors, vous savez, à propos de la... Quand je dis « je me comprends », ici, c'est presque, d'ailleurs, avec un peu d'humour, évidemment. C'est comme on dit, quand on dit, quelqu'un dit « oui, oui, moi, je me comprends », vous savez. C'est pour dire aux enfants, vous voyez, ces images, elles ont l'air mystérieuses, mais... Je me comprends, c'est pas seulement que je comprends les poèmes, c'est que je veux dire que quand j'utilise la poésie, quand j'utilise l'image, je me comprends mieux moi-même. Votre question est très importante. Ce qui fait peur devant la poésie, c'est la peur de ne pas comprendre. Et là, il faut qu'on oublie tous nos souvenirs scolaires. Il faut les oublier. Je veux dire, là, il faut oublier tout ce qu'on a appris. Je le dis, moi qui ai été prof agrégé de lettres. Oui, parce que c'est pas comme ça que ça se passe. Nous sommes tous des êtres poétiques, mais notre être poétique, il est caché, c'est tout. Nous avons tous la capacité de percevoir le monde en poète. Donc, à travers le poème, c'est peut-être même la manière de retrouver en nous cette une perception poétique du monde. C'est-à-dire, quand on lit un poème et qu'on se laisse aller au poème, c'est comme ça qu'on le comprend, c'est en se donnant tout entier généreusement au poème, sans se dire, comme on le fait cérébralement, intellectuellement, non mais qu'est-ce que ça veut dire ? Non, c'est comme un paysage. C'est pas parce qu'on lit des traités de géométrie ou de géologie qu'on comprend un paysage, c'est en marchant dedans. Et bien, c'est exactement pareil pour la poésie.
Alors, savez-vous comment faire pour donner envie à une nouvelle génération de continuer à faire vivre la poésie?
Je vais vous dire, je suis très optimiste, parce que moi j'ai pas mal de décennies derrière moi et jamais j'ai vu autant de jeunes s'intéresser à la poésie. C'est une très belle nouveauté, disons. On s'est beaucoup battu, les gens de ma génération, c'est pour ça que j'ai dirigé le Printemps des Poètes au plan national. J'ai passé ma vie à faire ça, à partager le poème, à témoigner pour le poème. Et donc on s'est beaucoup battu nombreux et aujourd'hui on en récolte les fruits, je crois, de ce combat, qui est un combat d'éducation populaire, un combat militant. Moi, j'ai jamais aimé la poésie pour moi-même. Je l'aimais parce que c'est le lieu d'un partage, parce que la vision du monde que porte la poésie, c'est une vision dont nous avons tous besoin. Donc c'est vraiment un choix politique pour moi. Et alors la question que vous posez, c'est la question du comment. Avant de diriger le Printemps des Poètes, j'ai créé une semaine de la poésie à Clermont, dans les années 80, à Clermont-Ferrand, la ville où j'étais, dans les années 80. Et mon idée, c'était d'inviter des poètes vivants pour aller dans les écoles, dans les classes. Et des poètes qui écrivaient aujourd'hui. La poésie demande un effort d'attention. C'est tout l'effort qu'elle demande. C'est le seul effort qu'elle demande. Et donc, il faut inventer des moyens de transmettre la poésie, et on en invente tous les jours, qui simplement préserve la force de percussion du poème, le poème tout entier, tel qu'il est, avec ce côté dérangeant et inattendu, parce que c'est ça qui le rend intéressant, justement, et pas des poèmes fadas. Après ça, du moment qu'on respecte le poème, plus on sera nombreux à témoigner du poème, plus il y a des chances que les gens rencontrent le poème. Et ma grande conviction aussi, c'est que quand quelqu'un rencontre un poème, presque toujours ça fait tilt. Voilà. Pas avec tous les poèmes, mais un jour ou l'autre ça fait tilt. C'est-à-dire que le fameux tilt, ça veut dire que les gens se disent « Tiens, ça me parle. » Et ça me parle comme rien d'autre me parle. Et c'est gagné, c'est tout.
Jean-Pierre Siméon, vous êtes également auteur d'essais. Je pense notamment à « La poésie sauvera le monde » aux éditions Le Passeur. Je souligne en passant que nous avons entendu en introduction de notre entretien la très expressive lecture de votre texte par l'acteur Denis Lavant, que l'on peut entendre ou réentendre dans l'émission « Théâtre et compagnie » de France Culture du 11 septembre 2022. Vous dites, dans cet essai, je cite quelques fragments, « Tout poème est un concentré d'humanité ». Aussi, la poésie est en quelque sorte un espéranto de l'âme humaine. Pourquoi pensez-vous, Jean-Pierre Siméon, que seule la poésie pourra changer le monde ?
Oui, j'ai écrit cet essai qui a fait du bruit, effectivement. J'en ai publié un autre après qui s'appelle « Petit éloge de la poésie » qui est la poursuite de cet premier essai. Les citations que vous avez données, elles relèvent de la conception que, pour ma part, je veux partager de la poésie. On voit la poésie comme l'explication de texte, la récitation, comme la jolie chose charmante. Il y a plein d'idées fausses sur la poésie. Plein, plein. Et moi, je dis, mais non, c'est une chose à vivre, la poésie. Et c'est d'ailleurs que ce que j'ai dit au début, c'est une part de l'humain profondément. Ça constitue l'humain, c'est la meilleure part de l'humain. C'est la part de la curiosité, de la conscience ouverte, de la conscience alerte, qui ne s'en tient pas aux apparences, qui cherche toujours à explorer le monde, qui cherche toujours à comprendre l'autre, qu'il soit un visage ou un paysage, autrement, plus, mieux, d'accord ? Donc, si c'est ça la poésie, le poème n'est qu'un moyen de ça. Mais la danse, le chant, la peinture, tous les gestes artistiques sont des moyens de ça, évidemment. Ce que je veux dire ici, c'est que par la poésie, on refonde en nous ce qu'il y a de plus humain, de plus profondément humain. Vous savez, le grand poète allemand, Novalis, un poète d'il y a longtemps, il y a deux siècles, il disait « Devenir homme est un art ». Et je crois que c'est l'art de la poésie. L'art de la poésie, c'est de construire l'humain en nous. On n'est jamais assez humain. On est même beaucoup plus inhumain qu'humain, souvent. Même nous tous, on n'a pas besoin d'être Poutine pour être inhumain. Donc je crois que c'est un combat permanent. Et la poésie est un combat pour plus d'humanité, individuellement et collectivement. Voilà pourquoi je dis que c'est un espéranto de l'âme humaine, parce que cette part poétique de la conscience, tout le monde la partage, tous les êtres. C'est la chose la plus universelle. Vous savez quoi ? On oublie toujours que la poésie est l'art le plus ancien qui nous soit parvenu et le plus universel. Il n'y a pas une communauté humaine où il n'y ait pas eu de poètes. On les appelle parfois autrement, hein. Djaïli en Afrique, chaman, derwish, je ne sais pas, on peut leur donner plein de noms, ou l'ermite taoïste d'il y a 2000 ans, enfin, il y a 1500 ans. Bref, il y a toujours eu des gens dans la communauté humaine qui ont, d'une manière ou d'une autre, témoigné de cette autre part de la compréhension du monde et du destin humain. Et c'est ce qu'on appelle, pour moi, que j'appelle des poètes. Voilà, donc il y en a partout, partout. À un moment, quelqu'un dans le groupe détient la parole du chant, la parole de l'incantation, la parole du sacré, d'une certaine façon, qui fait entendre justement, à fonction religieuse ou pas, qui fait entendre cette autre dimension de la réalité. Donc la poésie est universelle, elle est intemporelle, il y en a toujours eu. Je dis, on a des restes qu'on a trouvés sur les tablettes d'argile à Sumer, là-bas, entre le Tigre et l'Euphrate, qui datent d'il y a de près de 6000 ans. Et c'est des poèmes qu'on a. Donc, on ne peut pas imaginer plus vieux. Et ça veut dire que ça a été écrit, mais que c'était oral avant. Donc, pourquoi ? Je dis, c'est ça, l'espéranto de l'âme humaine. C'est-à-dire que l'âme humaine a trouvé son langage, et c'est la poésie.
J'ose vous poser la question, que diriez-vous d'ajouter la poésie comme matière spécifique au programme scolaire ? peut-on oser se poser la question ?
Là, vous posez une question qui est très importante. Moi, j'étais enseignant, j'étais formateur d'enseignants. J'ai même été un moment au ministère dans une commission pour les arts et la culture. Et j'ai dit qu'avec la meilleure volonté du monde, l'école a mal fait. Elle nous a donné, hélas, même si c'est là que tout le monde rencontre la poésie, un rapport à la poésie qui n'est pas juste. Voilà ce que je crois. Et pourtant, je défends l'école publique, je la défendrai jusqu'à la fin de mes jours, et les enseignants, ils sont pas en cause. C'est toute une conception des choses. Et donc, la question que vous posez, elle a des implications nombreuses. Je pense qu'il faudrait inventer. Et ça se fait. Il y a quand même aujourd'hui... dans beaucoup de cas, ce n'est pas le cas parce que ça ne se fait pas, parce que les enseignants ne sont pas formés, ils ont eux-mêmes un rapport difficile à la poésie. Mais il y a quand même une part des enseignants qui inventent d'autres moyens d'amener la poésie aux enfants ou de transmettre la poésie. Et moi, je crois que, par exemple, il y a les poètes qui vont dans les écoles, il y a des ateliers d'écriture, il y a des moments de lecture orale qui passent par plein d'ateliers, etc. Donc, mais il faudrait faire que ce soit généralisé. Ce que je pense, c'est que les exercices scolaires traditionnels qui transmettent un savoir sur la poésie ne devraient pas venir avant, ils devraient venir après tout ça. Il faudrait une pratique vivante de la poésie. C'est-à-dire, comme tout le reste, on apprend à nager en nageant, pas en regardant les autres nager, ou en montrant un schéma. Donc, il faudrait faire comme ça, que la poésie soit présente partout, là, je pourrais vous en parler des heures, dès la maternelle. Dès la maternelle. Une fois, j'ai donné une interview à une de vos consoeurs de France Inter et qui, sur ces questions de la poésie à l'école. Et je disais, mais il y a moyen, dès la maternelle, de lire des poèmes, pas seulement de la comptine, parce que la comptine, ça, c'est le côté ludique du langage. C'est très, très bien, bien sûr, mais on ne peut pas s'en tenir là. Il faut que les enfants entendent qu'il y a une autre voix, une autre langue qui n'est pas celle de l'amusement ou celle du récit de l'album ou celle des parents ou celle... Cette autre voix, c'est la voix du poème, qui ne parle pas comme les autres. Et même avec des enfants de moyenne section, j'ai fait l'expérience avec des instits, hein, ou de grandes sections, on peut dire de vrais poèmes. Il faut simplement que ce soit proportionné à la capacité d'attention des enfants. Donc que ce soit court. Mais dans un court temps de silence qu'on crée, il faut du silence pour la poésie. Quoi qu'il en soit, la poésie émerge du silence. Elle ne vit que dans le silence. C'est pour ça qu'elle est si mal lotie dans le monde d'aujourd'hui. L'enfant a des modes de compréhension du monde qui ne sont pas, comme chez nous, conceptuels, etc. etc. Donc il prend par l'image, il prend par le rythme, il prend par le son de la voix. Voilà. Et là, il entre dans le poème et c'est lui qui le comprend mieux, au fond, que l'adulte. Voilà, vous voyez, cette question, elle est complexe, elle est passionnante. Et il y aura, moi, comme je suis un être lucide, je sais que les choses ne vont pas très bien, n'est-ce pas ? Mais je suis optimiste toujours, donc je pense qu'on peut faire des progrès et qu'on en fait. Pour cette question. Je n'ai pas répondu, je viens comme ça tout à l'heure, vraiment la question qui était la plus difficile, c'est pourquoi je pensais que la poésie changerait le monde. En fait, j'ai même dit, j'avais quoi, qu'elle sauverait le monde. Hein. Oui, ce que je veux dire là, je veux le dire pour pas qu'il y ait de malentendu. On sait bien qu'un poème n'empêchera personne de mourir, d'être malade ou arrêtera un char. Aucun poème. Ce n'est pas ce que je veux dire. Ça, c'est une compréhension un peu bête de ce que j'ai voulu dire, évidemment. Je suis pas sot à ce point. Non, ce que je veux dire, c'est ce que représente la poésie, ce qu'elle signifie dans l'histoire humaine. C'est la position humaine dont elle témoigne et qui est universelle, dont j'ai dit. Je dis, cette position-là, on l'a toujours négligée, oubliée. On l'a sortie du rang des affaires courantes, n'est-ce pas ? On a dit que c'était un à côté, un à part, pour quelques-uns. Et moi, je dis, renversons les choses. C'est cette façon de vivre poétiquement pour nous tous, pour chacun, qui devrait orienter l'histoire humaine. Et au lieu d'aller dans le mur comme elle irait, on réinventerait l'humanité, justement. Donc c'est très sérieux ce que je dis. Moi, je ne suis pas un homme politique, c'est pas moi qui vais décider d'un programme de ce que je dis. Je dis simplement, le poète est un diapason, la poésie est un diapason. Et on devrait, si on était sérieux, voilà, il faudrait changer de sérieux. On n'a jamais pris les poètes au sérieux. Si on prenait les poètes au sérieux, et ce que signifie comme mode de vie sur Terre le poème, alors on pourrait réorganiser tout, la vie sociale, économique, et peut-être que... Et moi, mon hypothèse, c'est la seule qui nous permettrait, parce qu'elle n'est pas fondée sur le pouvoir, sur l'avoir, sur l'apparence, la seule qui nous permettrait de survivre, probablement.
La poésie sauvera le monde. Si rien le sauve, au reste, elle le sauve chaque jour de son indignité. Je n'ignore évidemment pas ce qu'immanquablement va provoquer de ricanements et de sarcasmes une telle assertion. C'est à l'aune du mépris dans lequel on tient la poésie en France depuis quelques décennies, et à proportion de l'idée très généralement partagée que l'on se fait de ces enjeux, y compris parmi l'élite intellectuelle, qui la tient au mieux pour un cas particulier de la littérature et au vrai si dérangeant, qu'elle agite à son égard comme avec un enfant handicapé qu'on cache dans la chambre du fond et dont on ne parle qu'à voix basse. Prétendre, pensez donc une chose pareille. Que la poésie sauvera le monde s'il peut l'être, fera d'autant plus esclaffer les esprits sérieux que c'est justement leur esprit de sérieux, emblème de la dernière modernité en date, qui a frappé d'interdit toute visée poétique autre que l'esthétisation du négatif, témoin, paraît-il, d'une lucidité enfin conquise sur 5000 ans d'enfantillage humaniste.
Aujourd'hui, Concertina vous a invité, Jean-Pierre Siméon, à rencontrer le maire de Dieulefit, grand amateur de votre poésie. Comment avez-vous perçu cette invitation, pour le moins originale, et qu'est-ce que cela vous inspire ?
Je vais vous dire que j'ai dit oui tout de suite, et qu'il n'y a pas plus invitation plus juste à mes yeux. Je me bats pour ça, pour qu'on entende la voix des poètes, pour qu'ils dialoguent avec, encore une fois, on met les poètes dans un aparté, on dit des illuminés, des gens qui ne sont pas des initiés, qui ont accès à un mystère particulier, et très bien des rêveurs, mais ce n'est pas vrai du tout, les poètes ne sont pas des rêveurs. Enfin, Federico García Lorca, il a été assassiné par les franquistes. Neruda, il a été mis en prison par Pinochet dès que Pinochet, ce grand dictateur, est arrivé au pouvoir. Enfin, c'est pas par hasard que. Parce que justement, il se préoccupe du monde et de l'histoire des hommes. Il y a eu des poètes résistants, il y en a toujours encore aujourd'hui. Donc, non, les poètes ne sont pas des rêveurs. Ils se préoccupent aussi du problème social. Donc, ce que je veux dire, c'est que, avec tout ça, c'est qu'on doit pouvoir dialoguer avec les poètes parce qu'ils ont une autre façon de penser, de dire les choses. Les poètes pensent, figurez-vous. Ils ne sont pas seulement des gens dont le cœur bat, hein, ils pensent. Il y a un état de la pensée qui passe par la poésie. Et on en a fait l'économie tout le temps. On l'a méprisée, on l'a ignorée même. Et donc, quand on m'invite, là, quand on me dit « Est-ce que vous voulez rencontrer un maire ?» Je dis « Oui, tout de suite ». Une fois, on m'a fait dialoguer avec un chirurgien d'un hôpital de Nice, qui est spécialiste de la reconstruction du corps après les cancers, par exemple. C'était passionnant, notre conversation. Moi, j'ai parlé en poète, et lui, en médecin chirurgien. Et je pense que ça nous a intéressés tous les deux, et ça a intéressé le public, vraiment. Moi, je n'arrête pas de dire aussi, écoutez, quand on entend les radios, les télés, etc., on interroge toujours sur les grands problèmes du monde. On va interroger des comédiens, hein, des chanteurs de variété. On va inviter toujours les mêmes, au fond, non ? Des gens qui ont eu un petit succès de cinéma ou je ne sais pas quoi. Pourquoi ils seraient plus fondés à dire quelque chose sur les grandes questions humaines que les poètes, qui sont, à mon avis, des travailleurs de fond de la question humaine ? J'ai écrit un livre qui s'intitule « Une théorie de l'amour », avec un titre un peu provoquant aussi, un livre de poèmes. C'est un livre paru assez récemment. Pourquoi j'ai fait ça ? Parce que c'est des poèmes sur l'amour. Tous les ans, il y a la Saint-Valentin, et quand c'est la Saint-Valentin, vous savez comme sont les radios et les télés, alors on parle d'amour, parce que c'est la Saint-Valentin. Donc je me disais, et j'ai vu ça dans les magazines, papier, les féminins, les magazines de psychologie ou les radios. On invite, pour parler de l'amour, qui ? On invite les sociologues, les psychologues, les sexologues, les ethnologues, je ne sais pas quel autre ologue du monde. Et moi, j'ai dit, mais ceux qui parlent d'amour depuis toujours, c'est les poètes. Hein. Vous pouvez les interroger sur l'amour. Voilà. Et donc, moi, je me suis dit, tiens, je vais écrire un poème qui parle de l'amour. Et c'est pour ça que je dis, oui, le poète a aussi sa théorie de l'amour. Et cette théorie, elle est autre, c'est tout. Voilà. C'était une manière de répondre aussi à votre question.
Et oui, merci. Vous parlez, en effet, de cette implication d'humanité de politique, hein, ce lien entre la poésie et la politique qui devrait se mailler, en fait. Un maillage serait à créer entre la politique et la poésie. Est-ce que d'une rencontre avec ce maire, est-ce que vous imaginez quelque chose ou vous êtes juste dans l'accueil de la rencontre ou vous avez peut-être en tête certaines perspectives?
Non, franchement, je suis dans la surprise de la rencontre, comme avec toute rencontre, en fait. Elle est inattendue, elle est imprévue. Moi, ce que j'aime dans la rencontre, c'est l'imprévu. Si on ne rencontre les gens qu'en fonction de ce qu'on attend et qu'on espère, on ne rencontre pas. Donc, je ne sais pas, j'ai envie de discuter, voir les questions qui se posent, les questions que je me pose. Justement, se poser la question du lien entre deux choses qu'on dit si opposées. Puisque, la politique serait du côté de la réalité, du réalisme, et les poètes du côté du rêve. Mais ce n'est pas vrai du tout. Je crois que c'est souvent les politiques qui sont des rêveurs et que les poètes ont bien les pieds sur terre, contrairement à ce qu'on croit. Oui, mais c'est ce genre de clichés ou de malentendus ou de préjugés qu'il faut renverser. Moi, je connais plein de poètes qui ont écrit sur la guerre en Ukraine, qui écrivent sur les malheurs des milliers de gens qui meurent en Méditerranée. Vous voyez ? Il y en a plein hein, qui écrivent des choses de l'actualité la plus actuelle, bon sang, et ils disent des choses. Donc, non, les poètes ne sont pas ailleurs. Voilà. Et il y a un vrai rapport, pour moi, profondément, entre politique et poésie. Mais évidemment, il faut refonder, si on veut comprendre ce rapport, il faut refonder le sens du mot politique et le sens du mot poésie. Si on pense politique au sens ce qui se passe, par exemple, dans la parole de Macron, tout ça, ou les disputes politiques, et si on pense poésie comme le petit poème à la fête des mamans, évidemment, ça n'a aucun rapport, hein, on est d'accord. Mais si on pense à la poésie, comme je l'ai dit tout à l'heure, on voit bien que ça concerne le politique immédiatement, puisqu'il s'agit de choix fondateurs de l'existence humaine et du destin humain. À partir de quoi on fonde une politique, la vie commune dans une cité, de conception qu'on a du destin humain. Aujourd'hui, plus que jamais, mais depuis toujours, on a fondé le destin humain sur l'obsession de l'avoir, de la prédation, de la prise. L'homme s'est construit en prenant, en dominant l'autre, quel qu'il soit, le paysage, l'animal, le végétal et l'autre homme. Toute l'histoire de l'humanité, c'est une histoire de domination, parce que tout ça est donc une question de pouvoir. Et la question de pouvoir, elle n'arrive qu'au moment où il y a l'obsession de l'avoir. Sinon, il n'y a pas de problème de pouvoir. Quand on n'a rien, il n'y a pas de pouvoir. Et donc, la question très, très nette pour moi, c'est comment la poésie permet de repenser. Mais c'est évidemment une recherche fondamentale. Ça ne veut pas avoir une application immédiate, encore que, par exemple, tout un tas de gens, intuitivement, aujourd'hui, inventent des manières poétiques de se situer dans le monde. Un autre rapport, un rapport plus poétique à la nature. Je parle dans mes essais de l'écologie, qui est une tentative de traduction de cette intuition première, qui est en fait le mythe d'Orphée. Orphée, il ne se situait pas au-dessus des animaux, des rochers et des arbres, il parlait avec eux. Comme François d'Assise, comme François Cheng, le poète chinois qui évoque ça, comme bien d'autres poètes, Kenneth White, un poète gallois qui vit en France et qui a inventé la géopoétique dans les années 70, où il parle d'une relation poétique au paysage, bien avant tous les grands discours écologiques. On n'a jamais écouté les poètes. C'est quand même Ronsard qui a écrit « Écoute, bûcheron, arrête un peu le bras », un grand poème qui est un des plus grands manifestes écologiques que je connaisse. Qu'on peut dire au pied devant l'Amazone ou de toute forêt abattue. Donc, vous voyez bien que ça a à voir avec le politique, tout ce que je raconte, non ?
Oui, et ça a à voir avec un futur désirable. Donc la poésie serait un outil pour l'écriture de possible, en fait, pour une création de futur désirable.
Oui, la poésie est un moyen, effectivement, je dis, mais moi je suis même encore plus radical que ça. Je crois vraiment que la seule façon de s'en sortir, c'est de repenser poétiquement les choses, de prendre en compte au cœur de la pensée politique la position poétique. Oui, ça paraît, mais j'ai écrit le bouquin pour expliquer ça. Hein. Ça paraît complètement invraisemblable, puisqu'on croit que c'est complètement incompatible, et c'est justement la seule chose qui nous sort en général de l'ornière, c'est de penser au contraire de l'ornière, de la pensée. C'est justement de penser l'impossible. Et c'est ça qui rend l'avenir possible, c'est de penser l'impossible. Parce que J'aime bien le terme désirable. Moi, j'aime bien le terme désirable. Je crois qu'il y a un avenir désirable, effectivement. Et ce n'est pas celui qui se promet actuellement. Donc, inventons un avenir désirable. Et pour l'inventer, je crois que la poésie est un atout extraordinaire. Voilà. Et en deux mots, c'est ça l'orientation de ma pensée. Moi, je crois, comme disait Jean Genet, que le poète doit être un professeur d'espérance. Et pourquoi ? Parce que moi, je ne vais pas vous dire... que je suis dans la mélancolie permanente, etc. Le poète est lucide. Hein. La gravité, la violence et la douleur du monde, c'est une donnée première pour le poète. Je ne connais pas de poète qui ne dise pas la charogne. Vous voyez Baudelaire. Les poètes disent la charogne. Les poètes sont tout à fait lucides. Ils voient la mort, ils voient la tragédie humaine. Mais la force de la poésie, c'est de dépasser ça. Même dans le poème de l'élégie de la lamentation, c'est pour réaffirmer la vie. La beauté de la vie. Je crois que profondément, c'est pour ça que Giono disait que le poète est un professeur d'espérance. C'est-à-dire qu'il ne s'en tient pas aux dictates et aux constats de la tragédie. Et d'ailleurs, le seul fait du poème, qui est une parole adressée, qui est une parole humaine, bah, c'est déjà réaffirmer la vie. Tant qu'on parle, qu'on chante, la vie existe. Hein, voilà. Et quand on me dit « tout est foutu », combien je rencontre tellement de gens... Vous êtes un incurable optimiste, naïf et bené. Je dis pas du tout, pas du tout. Hein. J'ai écrit d'ailleurs des choses très violentes, moi, dans mes bouquins. Et pas seulement en poésie, dans mon théâtre de poésie, par exemple. Non, je dis simplement qu'on est tout à fait conscient de ça. Mais qu'il y a deux solutions. Ou on s'en tient à ce constat définitivement amer et défait, quoi. Soit on essaie d'inventer une autre voie. Moi, je rencontre beaucoup de jeunes. Qu'est-ce que je dis aux jeunes ? J'ai enseigné à des étudiants pendant des décennies, des jeunes de 19, 20, 25 ans. Je leur dis non, mais vous savez, vous allez enseigner, mais ce n'est pas la peine, hein. Tout est foutu. Ce n'est pas possible, il faut avoir une parole d'espérance. Et une espérance fondée, lucide. Voilà. Mais il faut une parole d'espérance, parce que moi j'ai rencontré des lycéens il n'y a pas longtemps, ils me demandaient d'ailleurs, Ils m'ont demandé, mais quel espoir ils m'écoutaient parler comme ça, comme je vous parle à vous. Et j'ai senti qu'ils étaient complètement, vraiment très, très généreusement attentifs, quoi. Il y avait plein de questions. Et une des plus belles, c'est, vous nous donnez de l'espoir, mais comment faire, nous, pour faire vivre cet espoir ? Voilà. Ben, c'est la question de la poésie, hein, de toute façon. C'est comment comment, malgré les démentis de la réalité, réinventer le réel.
Oui, une parole éprouvée. La poésie est une parole éprouvée,
oui.
Chargée d'émotions.
Une parole non, éprouvée, c'est mieux encore que chargée d'émotions, soit, mais l'émotion n'a pas besoin du poème pour vivre l'émotion. Non, c'est une parole d'expérience. Parce que ce qui est la force de la parole poétique, c'est qu'elle est liée profondément à l'expérience charnelle du monde. Et dans la parole, je dis quelque part que la veine bat au temple du poème.
Qu'est-ce qui a invité, d'après vous, à étouffer la poésie ? Est-ce que ce serait ce pouvoir, justement, d'espoir et ce pouvoir créateur ?
Je crois que la poésie a toujours été étouffée. Hein. C'est pas plus aujourd'hui qu'autrefois. Aujourd'hui, elle a tendance même à relever la tête. Il y a toujours eu de grands poètes, je dis, il y en a toujours eu partout, mais on les a toujours marginalisés.
Pourquoi ?
Eh bien, tout simplement parce que ce qui domine dans les sociétés, les valeurs dominantes, sont des valeurs antipoétiques. Et la poésie est donc tolérée soit comme une charmante objection, une note en bas de page, vous voyez ce que je veux dire ? Soit comme justement, on la caricature en faisant un truc de quelques-uns, spécialité de quelques illuminés ou d'intellectuels, ce qui est complètement contraire. C'est une parole au cœur de la cité, au cœur de la communauté humaine. Mais pourquoi on évacue la poésie ? Parce que ce qu'elle propose... dérange, et ça dérange profondément, puisque ça juge les grandes valeurs qui organisent le monde depuis toujours, chez les Grecs, chez les Romains, chez les anciens Chinois, ou chez dans les peuples amérindiens, ou partout. Et donc, depuis toujours, ce qui organise la pensée sociale, politique, économique, c'est l'avoir. Je n'arrête pas de dire ça. Après, ça a été pensé... par des philosophes, etc. Mais moi, je dis que les poètes le disent depuis toujours. Ils ont depuis toujours... Les poètes disent depuis toujours qu'il y a une inversion de valeur. C'est-à-dire dans la hiérarchie des valeurs. On a mis comme la valeur suprême, ce à quoi tout était subordonné, l'avoir, la possession. Et les poètes disent, non, la valeur de la vie, c'est la dépossession. Voilà, franchement.
Merci Jean-Pierre Siméon pour ce moment d'échange. Je vous souhaite une belle rencontre poétique avec Christian Bussat, Mère de Dieu le Fils.
Merci beaucoup à vous de votre écoute et de votre attention.
Au plaisir.
Merci.